terror states.
Non, nous ne sommes pas des terroristes. 112e divergence numérique en ce jeudi 2 juin. Bienvenue à tous dans votre hebdo consacré au logiciel libre emmené par Gilles Gouget, votre serviteur, et Pascal Rullier. Bonsoir Pascal.
Bonsoir ou bienvenue à tous, puisque n'oublions pas, nous sommes remultidiffusés sur les ondes de Radio Escapade 103.3, 104.1, 102.0 maintenant à la salle. Bienvenue à tous, puis sur les ondes de CKIA FM 88.3, et puis aussi à ceux qui nous écoutent à travers les paquets de l'internet, qu'ils soient belges, suisses ou francophones.
Alors au sommaire de cette divergence numérique, la revue de presse de l'April par Emmanuel Charpentier et Luc Fievet qui nous emmèneront dans la Sarkozy. On parlera de ventes liées, d'impression 3D, d'alliance contre VMware, d'un article sociologique de l'OSI ou de Wikipédia qui veut s'inscrire au patrimoine mondial de l'humanité. Mais ce sera aussi l'occasion de revenir sur le salon Solutions GNU Linux 2011 où on parlera aussi de ventes liées, Pascal.
Alors, on parlera de ventes liées ou peut-être pas. En tout cas, on était sur le stand de Microsoft avec l'April qui leur posait des questions assez embarrassantes. Et on aura donc une réponse ou une non-réponse de celui qui représentait Microsoft, en tout cas.
Et puis un retour sur l'install party de Téran du samedi 21 mai. Téran dans le nord du département où ça bouge pas mal autour du libre.
Et oui, où la médiathèque de Téran organisait donc sa deuxième install party, une install party annuelle. Et donc j'ai pu capter comme ça des réactions du public à la fin de cette journée.
Côté musique, on sera agrémenté d'un One Musical Project intitulé NAM ou Soja, de son vrai nom Sébastien Job, qui fait de l'électro ambiante depuis 1998. Trois titres nous accompagneront en licence Creative Commons by NCSA 2.0, troisième étage, In Time et Nina's Dance. Mais pour l'instant, on ne va pas danser, mais plutôt aller vers les nouvelles du front.
Les nouvelles du front.
Les nouvelles du front, c'est la revue de presse de l'April avec Luc et Manu, avec une sélection de Écran, Lemonde.fr, Les Inrocks, ICT Journal, Mediapart et le Mag IT et Numérama.
Liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire
de l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, semaine 21 de l'année 2011. Salut Manu.
Salut Luc.
Alors, qu'est-ce qu'on a au sommaire ce soir?
Alors, on a 7 articles. Un sur le G8, un autre sur la vente liée, un nouvel article sur le sujet. Les imprimantes en 3 dimensions, des grands fabricants qui s'allient pour faire de la virtualisation. Ensuite, un article qui parle d'un livre sur la science, le pouvoir, le peuple.
Un article de fond, oui.
Très à fond. On va parler de l'OSI. Et finalement, le Wikipédia au niveau mondial pour rentrer au patrimoine mondial de l'humanité.
Alors, premier article, article de écran.fr. Sarkozy a tenté de planter le drapeau français sur Internet par Alexandre Hervaux.
Et là, je suis furieux. On n'a même pas été invité. Et ça, je trouve ça insupportable.
Moi, j'aurais aimé être invité là-bas, juste pour dire non.
Ouais, ça c'est ton côté snob.
Voilà.
Si on t'accepte dans un club...
Vous ne méritez pas.
Voilà, exactement. Ben, en fait, bon, donc tout le monde n'en a peut-être pas entendu parler, mais il y a eu une grande conférence, le G8, je pense qu'il le prononce I.
IG8.
Ouais, à l'anglaise. Et donc, ils ont réuni M. Sarkozy et autour de lui, les gros entrepreneurs.
C'est lui qui a lancé le truc.
Tout à fait.
Et il a ramené les chefs d'Internet, hein, comme il a dit, à savoir des gros entrepreneurs essentiellement pour discuter de ce qu'il fallait faire, tout ça.
Donc là, l'écran reprend un petit peu tout cela. Donc écran, c'est un site de libération.fr. Donc là aussi, c'est du lourd. Et ils ont le bonheur d'introduire dans leur article deux vidéos de personnes qui vont expliquer un petit peu ça un petit peu plus en détail.
Ouais, donc deux blogueurs, il y a Jeff Jarvis qui est un blogueur américain et Jeremy Zimmerman qu'on ne présente plus.
Notre grand ami de la quadrature du net. Et donc ils descendent qui mieux toutes ces intentions de contrôle du net. Et, oui. Oui,
on va civiliser Internet. L'argument de Sarkozy, c'est de dire, bah, en gros, l'interlocuteur des citoyens, c'est le gouvernement, c'est l'État. Donc les États doivent réguler Internet.
Alors régulièrement, on leur rappelle que Internet, c'est aussi un lieu de contestation. Mais ça, ils n'aiment pas forcément l'idée. Ils pensent que ce n'est pas vraiment le cas. Et quelque part, les printemps arabes sont utiles pour démontrer justement que Internet a vraiment quelque chose à voir avec la contestation, voilà, et les gouvernements.
Alors il y a une idée que je trouve assez intéressante dedans, qui est quelque chose qui a été lancé par un journaliste américain qui est cité par Jeff Jarvis, et qui dit que Internet était comme un huitième continent, et qu'en gros les États voulaient venir planter leur drapeau dessus, d'où le titre de l'article.
Et là, Sarkozy en premier, laissez passer. Donc ensuite on a lemonde.fr, vente liée d'ordinateurs et de logiciels, HP condamné pour pratique déloyale par la rédaction.
Donc bah, encore une bonne nouvelle, on avait déjà une la semaine dernière sur une juridiction de proximité qui donc avait rendu un avis favorable plaignant qui s'était plaint de la question de la vente liée. Et là, rebolote, et cette fois c'est pas de la juridiction de proximité, c'est la cour d'appel qui s'est prononcée, qui a donné raison à l'UFC que choisir, hein, la cour d'appel de Versailles, contre Hewlett Packard, qui est quand même une grosse boîte.
Mais alors là, je vois dans l'article, il est question qu'ils vont se faire casser. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? On va leur casser leur jugement?
Alors, une possibilité de passer en cassation, si Hewlett Packard veut le faire, il peut aller à la cour de cassation, qui, elle, ne se prononce pas sur les faits, mais qui se prononce en droit. Et comme là, on est quand même, me semble-t-il, sur des questions de droit, ça peut effectivement changer quelque chose. Bon, moi, je suis plutôt optimiste là-dessus. Les arguments de la cour d'appel tiennent tout à fait la route. Donc, ils demandent notamment à ce que les prix soient affichés, c'est-à-dire qu'on sache combien on paye quand on achète un ordinateur. Ils ont remarqué notamment qu'il y avait des tarifications différentes, c'est-à-dire que des professionnels, des entreprises qui allaient acheter de la Hewlett Packard pouvait acheter une machine sans système d'exploitation, alors que c'est absolument pas prévu par les particuliers. Il n'y a aucune raison, s'ils savent le faire pour les entreprises, on voit pas pourquoi ils ne sauraient pas le faire pour les particuliers.
Une bonne nouvelle, moi qui ai besoin de m'acheter un ordinateur, je vais peut-être aller faire un tour de ce côté-là. Finalement, ils sont coupables de vente liée, mais ils peuvent récupérer des clientèles grâce à ce jugement. Ça peut être amusant.
Alors, article suivant, donc un article des Inrock. L'impression en 3D de plus en plus accessible par Anne-Claire Noro. Donc, première fois, je crois qu'on parle des Inrock.
Peut-être la deuxième fois, voilà. Mais ça ne doit pas être beaucoup plus que ça.
On avait par contre déjà parlé d'impression 3D. J'ai cru comprendre que tu avais un léger faible pour cette technologie.
Ah, mais c'est parce que j'ai vu des imprimantes 3D en live et que c'est très impressionnant. Donc, dans l'article, il y a justement une autre vidéo d'une autre façon d'imprimer en 3 dimensions. Et là, bah, c'est vraiment génial. Je veux la même chose chez moi. Le gars, il arrive à faire à partir de poussière des roulements à billes, fonctionnels, très bien, mais vraiment superbe. Je veux la même chose. Je ne sais pas ce que je veux faire avec, mais je veux la même chose.
Voilà, donc l'article fait le point sur les technologies d'impression 3D, en parlant des petites machines qui coûtent pas si cher que ça, qu'on peut monter soi-même pour avoir l'impression 3D de mauvaise qualité, il faut bien l'avouer, hein, très peu précise, mais c'est vraiment pour le plaisir, pour les authentiques hackers qui ont envie de bidouiller, tester, découvrir. Ici, des services comme Sculteo, qui est une boîte française, hein, qui on peut uploader des fichiers en 3D sur leur site et ils impriment avec leur machine professionnelle et renvoient les modèles chez soi. Moi, j'en ai fait quelques-uns parce que je bidouille un peu de 3D et c'est assez sympa. Bon, par contre, ça coûte un œil, hein, faut le savoir, mais c'est super sympa.
Oui, t'as fait ça avec le logiciel dont ils parlent dans
l'article. Ah non, alors là, bon, voilà, là, je suis furieux parce qu'en gros, ils disent qu'on peut uploader des trucs faits avec Google SketchUp, donc qui est un logiciel propriétaire de Google.
C'est terrible.
Qu'ils ont fait pour que les gens fassent gratuitement des petites maisons pour mettre leur cartographie en 3D. Voilà, il y a Blender, hein, qui permet de faire des logiciels libres qui permet de faire de la 3D. Il y en a d'autres. Et faire de la vraie 3D, parce qu'avec SketchUp, on fait des petits volumes simples, ça va quand même pas très loin.
Donc il y a une magnifique image en tête de l'article, allez jeter un œil, ne serait-ce que pour elle. Je sais pas, voilà, ce que ça représente, mais c'est super.
Ça représente rien du tout, je pense. Par contre, c'est une sorte de structure d'entrelacs percé avec des trous en trois dimensions. Quelque chose qu'on pourrait absolument pas, ou enfin qu'on pourrait faire, mais ce serait vraiment l'enfer à faire avec des techniques d'usinage classiques. Et ça montre tout l'intérêt de la 3D, en tout cas tout le potentiel.
Oh, moi, j'ai des techniques cachées et secrètes, hein, c'est des stagiaires. Mais bon.
ICT Journal, plusieurs grands fabricants s'allient contre VMware par Rodolphe Koller.
Donc VMware, c'est un éditeur de logiciels qui fait de la virtualisation. T'en as entendu parler, hein, de virtualisation.
Ah ouais, alors moi, oui. Dans mon article, j'ai rien compris. Hein, la fois que tu m'expliques. Enfin, je sais à peu près ce que c'est qu'une une machine virtuelle. Donc l'idée, c'est qu'on a un ordinateur physique, un système d'exploitation qui tourne et qui, en gros, met en place des sous-systèmes d'exploitation qui marchent comme s'ils avaient leur propre machine physique, sauf que c'est une machine virtuelle, c'est une machine logicielle. Et ça permet aux gens comme toi de bidouiller des tas de trucs, faire des tests sur plein de configurations possibles sans avoir besoin d'avoir 36 ordinateurs côte à côte.
C'est à peu près ça, effectivement. Bah, toi, t'as bien compris le sujet. Et c'est en grande partie à la base de tout ce qu'on appelle le cloud, les nuages. L'informatique en cloud, donc dont Amazon par exemple est un des grands acteurs, et VMware, bien, c'est les premiers à faire de la virtualisation, c'est les plus gros, c'est les plus importants, c'est les plus connus. Et bien là, il y a des constructeurs, fabricants, éditeurs, dont HP, IBM, Red Hat, Intel, Eucalyptus, SUSE, qui constituent l'Open Virtualization Alliance, avec mon super accent anglais. Donc une nouvelle association d'entreprises pour essayer de constituer autour du noyau Linux des technologies en pointe pour faire de la virtualisation et être compétitif face à VMware.
Alors ils partent de loin parce que VMware a comme de l'avance.
Largement.
Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'on voit que ces grosses boîtes ont intégré tout l'intérêt du libre et de la logique qu'il y a derrière. Et donc plutôt que de mettre la main à la poche ou d'essayer de se tirer la bourre pour savoir qui va négocier les meilleurs tarifs auprès du fournisseur propriétaires, bah, ils mutualisent et ils développent leur propre solution. Ils savent qu'à terme, ça leur coûtera moins cher. Et qu'en plus, ils seront maîtres de cette technologie qui est devenue quelque chose de stratégique.
Alors moi, je connaissais Xen pour l'utiliser, mais je suis vraiment juste un utilisateur. Là, c'est KVM, si j'ai bien compris, sur lequel ils vont se focaliser. Donc bien là, c'est vraiment l'avantage du libre. C'est, on travaille à plusieurs sur les mêmes problématiques et on les améliore tous ensemble. Bravo.
Article de Mediapart, la science, le pouvoir et le peuple, par Clément Sénéchal.
Donc, je suis sûr qu'on dit Mediapart.
Mediapart
ta. Wow. Si. Sarkozy, quand il utilise le terme. Non, okay, bon. Faudra vérifier.
Je ne sais plus quoi dire. Bah, voilà. Alors, si tu cites du Sarkozy et tout, je vais aller me pendre. Donc cet article est un long article qui présente un bouquin écrit par un Américain qui s'appelle Clifford D. Conner, qui est donc un historien, et un historien des sciences, dont le propos est de dire qu'on a une vision du progrès scientifique et des découvertes de la science, où ce serait des sortes de grandes découvertes, il y aurait une sorte de marasme, et puis un jour Newton prend une pomme sur la tête et il a découvert quelque chose de fabuleux, etc. Et donc il dit que c'est pas du tout comme ça que ça marche historiquement, et qu'il y a plein de gens à la base, des artisans, des paysans, enfin des tas de gens qui sont confrontés à des problèmes concrets, qui réfléchissent, bidouillent, trouvent des solutions, et qu'effectivement, à un moment ou un autre, il y a quelqu'un qui arrive à synthétiser, théoriser, mais qui s'appuie sur la multitude, et donc n'est pas juché sur les épaules d'un géant, pour reprendre une citation dont j'ai oublié l'existence, je sais juste que c'est une citation, mais sur les épaules d'une multitude, d'une petite multitude, et que c'est comme ça que ça marche.
Donc moi aussi, j'ai jeté un œil dans cet article, hein. Ton côté sociologue a dû adorer. Donc il est question d'un ouvrage monumental qui vient juste d'être traduit en français. Mais là, j'avoue que cette idée que c'est les artisans et que c'est vraiment du bas vers le haut, que la science et les avancées, le progrès, en fait, se constituent pour de bon, j'adore cette idée.
Voilà. Dans l'article, il cite directement le logiciel libre, et Stallman et toute la dynamique qui est derrière, qui correspond très exactement à ça. Il parle d'informatique aussi, où il dit qu'au début de l'informatique, les programmeurs étaient considérés comme des sous-merdes, on peut le dire, par les ingénieurs et les scientifiques. C'était des langages qui étaient extrêmement austères, et qu'avec les langages un peu plus avancés qui sont arrivés dans les années 70-80, plutôt 80, tout le monde a pu commencer à mettre les mains dedans. Donc c'est des choses, enfin tout le monde... C'était accessible à qui avait envie de s'y mettre. En gros, il n'y avait pas de monopole, hein, parce que c'est quelque chose qui développe dans l'article sur les monopoles du savoir qui sont beaucoup plus importants aux États-Unis que chez nous. Et du coup, l'informatique s'est développée comme une discipline justement portée par une multitude de gens qui résolvent des problèmes concrets et qui ne sont pas en train de faire de la grande théorie. Mais ce qui n'empêche pas, pour le coup, de progresser et de faire des découvertes.
Il faudrait faire lire ce genre de choses aux ceux qui proposent les brevets logiciels, par exemple, qui ne sont rien d'autre que des constitutions de monopole et des blocages qui viennent d'en haut vers le bas. J'ai cru comprendre...
Ça, c'est clair que ouais, là-dessus, par rapport à ce qu'il explique sur notamment les technologies, tout ce qui touche à la pharmacie, on est clairement là-dedans. Le brevet logiciel correspond parfaitement à cette logique de mise sous contrôle et de prise de pouvoir sur le savoir informatique.
Alors, je ne sais pas si on a encore le temps, mais la fin de l'article avait l'air de t'avoir... poser des questions.
Oui, alors c'est le petit point noir, c'est que le bouquin, évidemment, c'était long à écrire, et donc il y a une citation de l'auteur qui dit « C'est trop attendre d'une technologie que d'espérer que la prolifération des ordinateurs mène à une quelconque libération. »
Et là, paf,
les printemps arabes, donc évidemment, il a fallu quand même aller se prendre des coups de matraque et des balles pour faire bouger les choses, mais on voit qu'Internet, et que d'un point de vue de l'information et de la communication, ça pèse quand même, quoi qu'on en dise. Donc, voilà, mais le propos reste tout à fait intéressant.
Donc allez jeter un œil, c'est des bons articles en profondeur. Voilà. Donc l'avant-dernier article.
Le Mag IT, l'OSI se modernise en s'ouvrant aux entreprises et aux institutions open source par Cyril Chausson.
L'OSI, c'est un truc que t'adores.
L'open source initiative, alors pour faire très très bref, l'OSI en gros a dit, nous on se concentre sur la technique et sur l'intérêt de faire de l'open source, d'ouvrir les sources, parce que c'est juste plus efficace pour bien coder. Et en laissant tomber le côté philosophique que peut avoir la FSF par ailleurs. L'institution en elle-même, OSI, l'Open Source Initiative, était un peu moribonde, un peu morte. Donc là, c'est une grande relance, un reboot comme ils disent, où ils vont aller chercher du côté des entreprises, donc a priori il y a pas mal d'argent qui risque de rentrer là-dedans. À voir ce que ça donne, moi je pense que ça peut être très positif, à condition que leur truc ne mène pas à dénaturer les licences libres, ce qui pourrait être tentant, parce qu'une grosse entreprise va avoir toujours tendance à vouloir contrôler son marché une fois qu'elle est en position dominante.
Bon, l'OSI revient à la vie, pourtant c'est un peu le jumeau machiavélique de la FSF, hein. Mais bon...
Ils ont bossé ensemble sur des affaires récentes, hein, donc c'est pas la guerre totale. Alors, pour finir, Numérama, Wikipédia va être inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par Guillaume Champeau.
Donc, un article sympathique, le patrimoine mondial de l'humanité, mais il y a la Tour Eiffel, les pyramides, des choses comme ça. Comment ils vont faire?
Alors,
pour mettre Wikipédia?
Alors, à l'APRID, il y a Benoît Cibot qui avait œuvré pour faire reconnaître le logiciel libre comme patrimoine de l'humanité et avait pas mal avancé sur le sujet. Ça reste compliqué et là, bon, en substance, l'article dit que pour Wikipédia, ça va être très difficile parce qu'à l'UNESCO, ils sont quand même plutôt conservateurs. Et que cette espèce d'ovni par rapport effectivement à une pyramide, ça va peut-être difficile, mais en tout cas, il y a d'autres reconnaissances comme le registre de la mémoire du monde. Bon, c'est un petit peu moins ambitieux, mais c'est peut-être plus abordable et ce serait pas si mal.
Bon, j'espère qu'on en reparlera dans 50 ans ou dans 100 ans, quand Wikipédia aura encore grossi et pris vraiment toutes les connaissances de l'humanité.
Ou alors exploser, ou s'est effondré sous son poids, faut voir. Mais bon, en tout cas, voilà, une initiative qui mérite d'être citée.
Bon, et bien sur ce, je te dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, et bonjour à tout le monde à Divergence.
Luc Fievet et Emmanuel Charpentier pour cette revue de presse de l'April que l'on retrouvera bien la semaine prochaine et que l'on va essayer aussi de distiller plus régulièrement dans d'autres créneaux horaires. Mais vous savez, ma bonne dame, quand il n'y a pas assez d'eau pour les pâtes, eh bien, il faut en rajouter ou en mettre moins. Hein, c'est comme ça. À présent, un petit peu de musique avec ce One Man Project NAM avec ce titre 3e étage, sous licence Creatives Commons by NCSA 2.0, un artiste qui figurera peut-être à la prochaine Allez Libre Ma Musique.
Absolument, puisqu'il est de Montpellier, donc on reviendra plus en détail dans Allez Libre Ma Musique avec d'autres morceaux, mais en tout cas pour l'instant on va écouter donc 3e étage en licence Creative Commons by NCSA 2.0. Thank you.
Thank you.
Au troisième étage, c'est l'artiste montpelliérain Nam, qu'on l'on réécoutera tout à l'heure. Dans la revue de presse qui précédait, on parlait de vente liée. La vente liée, c'était aussi au sommaire du salon Solutions GNU Linux 2011, où tu étais, Pascal, et où tu as pu assister à ce dialogue de sourds entre un responsable Microsoft et des personnes de l'April.
Oui, tout à fait. C'était juste après l'intervention de la GCU Squad, justement, sur le stand de Microsoft, où bizarrement il n'y avait qu'un seul représentant de Microsoft, interpellé par des représentants de l'April et différents utilisateurs sur justement la vente liée, pourquoi quand une machine est vendue, est-ce qu'elle est obligatoirement avec un système d'exploitation Microsoft. Voilà, quelques questions, quelques réponses ou non-réponses.
Et c'est le représentant de Microsoft qui prend la parole.
Mais par rapport il y a quelques années en particulier, on a multiplié les connexions avec les communautés, à la louche et sans réfléchir, parce que moi j'ai pas eu le temps de préparer, Apache, Eclipse, PHP, Drupal, Symfony, enfin bon, il y en a dans tous les sens, et on travaille sur du concret, on travaille sur beaucoup d'éléments concrets, et on a rejoint, y compris en France, plusieurs organismes qui traitent exclusivement d'open source, et on y contribue pour faire en sorte effectivement que l'open source soit mieux compris.
Deuxième question, si j'achète demain un ordinateur avec Windows, forcément.
Non, pas forcément.
De nos jours, il n'y a que trois modèles, je crois, qui sont disponibles sans Windows, à savoir les Chrome OS. Les Linux tout court sont très rarement trouvables en France dans les grandes enseignes. Il faut chercher forcément dans des enseignes plus réduites qui ne sont pas forcément facilement accessibles.
Je ne vais pas vous interrompre. Donc, un, vous pouvez trouver des machines dites nues sur lesquelles il n'y a pas du tout d'OS. Je vous le confirme parce que moi-même j'en ai acheté pour mettre du Windows dessus quand même. Mais c'est possible. J'ai aussi du Linux, j'ai aussi installé du Linux. Et oui, donc il m'arrive aussi de faire ce genre de choses. Mais donc on peut parfaitement trouver ça. Donc là où je veux en venir, c'est que nous n'imposons absolument rien et que c'est tout à fait faisable. Que ce ne soit pas facile à trouver, ça, c'est possible, parce que la demande est là et que les circuits de distribution font leur choix. Et je vous garantis que quand on leur vend Windows, parce qu'il faut le vendre, c'est un véritable acte de vente. Et ça consiste effectivement à rentrer dans des négociations dans lesquelles ils nous mettent en balance le fait qu'ils pourraient très bien vendre les machines nues, mettre du Linux ou autre chose à l'intérieur. Donc c'est une vraie négociation. Et il y a eu plusieurs procès en la matière depuis plusieurs années en France. Et à chaque fois, c'est soldé par la même décision, il n'y a pas de vente liée.
La Cour européenne a condamné, si je ne me trompe pas, en septembre dernier, justement une vente d'un système d'exploitation Microsoft équipé de logiciels professionnels, il me semble que c'est Windows Professionnel 7, et ça a été condamné par la Cour européenne. Vous en dites quoi ?
Je n'ai pas connaissance de cette décision-là et je ne sais pas qui était effectivement l'accusé à supposer qu'effectivement ce soit bien le cas, parce que ce n'est pas forcément l'éditeur qui peut être en cause. Vous pouvez très bien avoir une éventuelle vente liée qui soit liée à un autre acteur. En tout cas en France et donc au niveau européen, puisqu'il y a effectivement interopérabilité pour le coup des décisions législatives, il n'y a pas de vente liée. Il n'y a pas de vente liée.
Effectivement, à chaque fois que j'ai le problème de vente liée, je l'ai eu il n'y a pas longtemps quand on a acheté chez Dell, par exemple, du matériel dans la gamme Pro. Donc normalement, on peut acheter sans OS. L'impression que j'ai, c'est surtout que les constructeurs ou les fournisseurs, effectivement, mettent comme barrage Microsoft nous oblige à vendre avec. Est-ce que dans ce cas-là, pour rétablir un peu effectivement la position, est-ce qu'il serait possible que Microsoft communique sur le thème « Non, on ne force pas
mais nous le faisons
les... » Vous on le voit pas. C'est-à-dire que moi je bosse avec une boîte, un fournisseur s'appelle Dell par exemple, on leur prend énormément de serveurs, systématiquement en dehors, tout ce qui n'est pas serveur pur où ils n'ont pas d'argument, tout ce qui est workstation, ils nous disent ah vous comprenez, sur ce modèle-là, je suis obligé de vendre du Microsoft et j'ai aucun moyen. Je vois aucune chose qui me dit que Microsoft a dit non. Nous, on leur fournit effectivement des masters, des machins. On leur dit, c'est plus simple de travailler avec nous. Pourquoi pas, c'est un discours marketing. Est-ce que vous avez, vous, moyen de faire pression sur les constructeurs pour leur dire, arrêtez de déconner ?
D'abord, il n'y a rien qui dit que, mais il n'y a rien qui dit que pas dans l'autre sens. Il n'y a rien qui dit nulle part que nous obligeons qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Et pour cause, ce n'est pas le cas.
Ça porte pas bien de dénoncer ce discours. Est-ce que vous dénoncez ce discours de la part des constructeurs qui vous fait porter le chapeau ?
Je n'ai aucune raison de dénoncer qui que ce soit, surtout quand ce sont des partenaires, parce que nous respectons parfaitement les accords que nous avons avec nos partenaires. En revanche, ce que je dis...
Donc vous assumez parfaitement la situation de vente liée qui a lieu à l'heure actuelle.
Mais il n'y a pas de vente liée. Il n'y a pas de vente liée. Le terme de vente liée est une...
La Cour de cassation, elle dit pas le contraire.
Le terme de vente liée est une décision effectivement judiciaire. Il n'y a pas de vente liée. Il y a eu plusieurs procès en France sur le sujet. Aucun ne s'est soldé par cette décision. Non, mais pas du tout, mais pas sur la vente liée, absolument pas. Est-ce qu'il peut y avoir des prises de position publiques? J'en vois déjà quelques-unes autour de moi. Et je sais que ça, tout ça va partir sur le web et c'est très bien comme ça. Donc il n'y a absolument pas ces façons de faire. Nous n'avons pas 100% de part de marché sur les PC en France, mais y compris au niveau de la vente, indépendamment de l'installation, y compris au niveau de la vente, car il se vend quelques machines sur lesquelles il n'y a effectivement pas, je parle de machines qui acceptent Windows, je ne parle pas de processeurs sur lesquels de toute façon il n'est pas installable. Il y a des machines sur lesquelles il n'y a pas Windows. C'est la demande marché qui fait que les constructeurs, à un moment donné, veulent effectivement mettre Windows à l'intérieur. Et ensuite, on a une négociation commerciale avec eux pour établir le bon prix.
Quand vous négociez avec les constructeurs, vous ne pouvez pas leur dire « oui, on est là, effectivement ». Enfin, je ne sais pas si Carrefour vient vous voir en disant « je veux du Windows ». Comme ça.
C'est nous qui allons voir Carrefour en disant « on aimerait bien vous vendre du Windows pour que vous le mettiez sur vos machines ». Et ils vont nous dire « combien tu me le fais ?». Et à ce moment-là, on rentre dans une négociation visant à avoir un équilibre de prix qui corresponde à ce que peuvent pouvoir revendre derrière donc à leurs clients finaux et qui correspondent effectivement au prix auquel on veut vendre. Mais je voudrais répondre très clairement à la question. Est-ce qu'on peut aller voir ces acteurs-là pour faire en sorte de leur dire « mais mettez donc autre chose », la réponse est non.
Madame Michu, qui est effectivement la plus grosse la consommation, qui elle a un intérêt à pas avoir une preuve de données personnelles, problème d'ouverture de fichiers, etc., de format, elle ne sait pas forcément se défendre dans ce cas-là, elle voit pas forcément ce qui n'existe pas, pour elle ça n'existe pas. Donc nous on l'informe. Est-ce que vous n'avez pas intérêt aussi, même ça pourrait peut-être vous servir au niveau européen, au niveau principe du lobbying, à essayer d'ouvrir l'autre côté en disant les constructeurs que nous on dénonce, en disant ils nous forcent à prendre du Microsoft avec nous. J'ai pas de problème avec Microsoft. J'ai de problème avec on me force à prendre du Microsoft.
Je comprends.
Est-ce que vous n'avez pas intérêt à dire aussi aux constructeurs, ne forcez pas les gens? Oui, avec nous, quand on ouvre des offres, c'est normal de travailler avec nous. Mais quand vous vendez une machine et que la personne fait la démarche de dire je veux pas de ce produit-là, j'en veux un autre, de lui dire on va vous faciliter le travail. Combien ça coûte et est-ce qu'on peut vous faciliter la tâche?
Non mais ça, c'est effectivement ce que le réseau de revente doit pouvoir faire, doit pouvoir répondre à votre expression de besoin.
Actuellement, ça, on ne le voit pas.
Ça coûte. Exactement.
Et on doit passer par la justice pour y arriver.
Combien coûte vos licences?
Honnêtement, je n'en ai aucune idée. On est sur
vous
des.
Pas, vous êtes sous Windows? Vous personnellement, vous êtes sous Windows ou pas? Combien vous l'avez acquis votre licence?
Je l'ai acheté dans ma machine. J'ai acheté un produit complet dans lequel il y avait une machine avec du logiciel intérieur, pas que Windows d'ailleurs, mais il y avait du logiciel intérieur. Et je ne me suis pas posé la question de savoir combien coûtait chacun des éléments.
Et ça vous intéresse pas?
Personnellement, très sincèrement, non. Pourquoi? Parce que ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un paquet complet qui fonctionne. À partir du moment où il fonctionne, bah je suis content. Si un jour, il y a d'autres systèmes qui vont fonctionner avec d'autres composantes technologiques, je peux éventuellement être ravi aussi. Mais ce qui m'intéresse, c'est le produit final, c'est son utilisation. Après, je suis comme vous.
C'est pas valable. Quand vous achetez des pâtes et de la sauce à pâtes, vous avez envie de connaître les deux choses, les deux produits.
Mais pas toujours.
Comment on immobilise du logiciel et comment on immobilise du matériel? Vous connaissez la différence comptable?
Je ne suis pas comptable de formation, donc non, je n'ai pas le détail.
Il y en a un qui s'immobilise de matière matérielle et l'autre de matière immatérielle. Comment je fais, moi, en tant qu'entrepreneur, pour immobiliser et respecter le plan comptable lorsqu'on ne m'indique pas le prix de la sauce des pâtes?
Lorsque l'on a un PC qui est un produit complet dans lequel il y a plusieurs composants...
Immobiliser. Concrètement, moi j'ai un besoin d'entrepreneur, comment j'immobilise mes achats logiciels?
Comment vous faites l'acquisition de votre logiciel?
Vous êtes d'accord que c'est du logiciel que j'acquiers?
Ça dépend comment vous en faites l'acquisition. Vous en faites l'acquisition soit par le biais d'un matériel et auquel cas il est attaché à la machine, soit vous en faites l'acquisition par un autre biais qui est un contrat de licence.
Les deux s'immobilisent de manière immatérielle. Donc comment je fais pour remplir ce plan comptable?
Je n'en sais rien, je ne suis pas comptable, je n'en ai aucune idée.
Vous cautionnez le non-respect du plan comptable.
Pourquoi vous me faites mes conclusions?
Vous ne répondez pas à ma question. Comment j'immobilise de manière immatérielle?
Je vous pose une question technique. Sur un domaine que je ne connais pas, je ne peux pas répondre.
Vous êtes l'expert et vous n'êtes pas.
Pas en comptabilité, certainement pas en comptabilité.
En matière de logiciel, visiblement propriétaire, vous êtes l'un des seuls représentants ici. Donc,
De comptabilité, votre question elle est liée à l'amortissement. Ça n'a rien à voir avec le logiciel soi-même, ça a un rapport avec la comptabilité. Et honnêtement, je ne sais pas. Je ne suis jamais occupé d'immobilisation de ma vie, donc je ne sais pas répondre.
D'accord. Bah, ça se voit que vous n'êtes pas entrepreneur, c'est dommage.
Peut-être que c'est dommage, effectivement, mais c'est bon, en même temps, pas ma vocation.
Que Microsoft n'était pas trop pro-innovation, donc vous en faites une nouvelle démonstration.
Là encore, je vous laisse toujours comprendre. Mais on ne voit pas l'innovation sur les plans comptables, on la voit ailleurs.
Par les entrepreneurs.
Les entrepreneurs contribuent à l'innovation, tous, absolument, quel qu'il soit.
Ah oui, alors effectivement, des réponses d'une clartitude ou d'une évidencibilité, enfin j'ai rien compris à ce qu'il a dit.
En fait, tout dépend du point de vue dont vous vous placez, si c'est acheté avec, comme un lot ou pas du tout. En tout cas, comptablement, Tanguy Morlier posait des questions qui étaient assez pointues et dont effectivement s'adressaient à des comptables, mais apparemment le représentant n'était pas un comptable.
En tout cas, une bonne tranche de rigolade. Ben, j'ai un petit peu comme chaque année une petite page musicale, toujours donc avec Nam qui ce coup-ci sera à l'heure puisqu'il nous interprète In Time. C'est toujours sous licence Creative Commons by NCSA 2.0. Citez-le et ne faites pas d'utilisation commerciale sans son accord et partagez-le sous la même licence. Voilà, c'est à peu près le décodage de ces licences Creative Commons qui sont toujours un petit peu bizarroïdes. Time, c'est le One Man Musical Project NAM. Il est de Montpellier, il sera à l'honneur de la prochaine Allée Libre Ma Musique. Et à présent, on fait un petit tour vers Téran. Téran, où la médiathèque se bouge autour des questions du libre et organisé ce samedi 21 mai 2011 de 10 à 17h une install party, deuxième du nom, suite au succès de la première. Et je crois que tu as fait partie des libristes qui sont allés prêcher la bonne parole.
Alors oui, effectivement, c'est vrai que c'était la deuxième install party que organisait donc la médiathèque de Téran, très adepte des logiciels libres puisque ils y font des ateliers OpenShot Video Editor, qui est un éditeur de montage vidéo, des ateliers sur Audacity également. Et là, c'était donc l'occasion donc d'une deuxième install party. La salle du premier étage et l'espace multimédia se sont transformés donc le temps d'une journée en véritable laboratoire d'expérimentation et de découverte des systèmes d'exploitation alternatifs Unix, donc de type Ubuntu et autres distributions GNU Linux. Des formations et des conférences aux logiciels libres, concurrents efficaces des logiciels propriétaires, donc se sont organisées toute la journée. C'était également une manière ludique pour le public de rencontrer les experts en informatique des associations de la région et de pouvoir aussi amener son ordinateur pour y installer des systèmes et logiciels pratiques et légers. C'était le cas d'ailleurs de Lydia qui dit voilà, installez-moi directement une distribution GNU Linux, c'était Ubuntu, donc entraide, découverte, conseil, installation. Et puis maintenant, un petit retour donc sur les réactions du public à l'issue de cette journée.
Déjà, d'où venez-vous ?
Je viens de Montpellier.
Je viens de Téran.
Je viens des environs de Nîmes. Je représente une association qui s'appelle Gare Linux et qui s'attache à développer l'utilisation de Linux et des logiciels libres dans le département du Gard.
Comment avez-vous connu cet événement d'Install Party à Téran ?
Je ne sais pas très bien. C'est par l'association de la fac en face. Et je suis allée à une projection sur les logiciels libres il y a environ 2 ans. Et depuis, je suis en relation avec l'association des logiciels libres sur Montpellier.
J'étais en contact avec l'animateur. L'année dernière, j'étais déjà venu. Et vu que tout ce qui est logiciel libre et tout ça m'intéresse, j'ai sauté sur l'occasion.
Je l'ai connu par le biais de la liste de diffusion de l'association Gare Linux qui reçoit ce genre d'informations.
Que pensez-vous de cet événement aujourd'hui ?
Moi, je trouve ça très très important parce que nous ne sommes pas tous des techniciens et c'est extrêmement compliqué quand on n'a pas toujours la possibilité de faire réparer, de dépenser l'argent nécessaire. Et puis de se faire former. C'est très, très difficile. J'avais dit une fois à une réunion comme ça que j'avais l'impression d'être un saumon qui remonte la rivière parce que c'est très difficile toute seule d'aller sur Internet et d'avoir un ordinateur en bon état. C'est très, très agréable de retrouver des personnes qui veulent bien aider et conseiller.
C'est intéressant si on a des problèmes ou quoi, parce que même si la communauté est importante, c'est quand même mieux d'avoir quelqu'un en face de soi pour parler directement du problème.
Ça permet de diffuser la culture du libre dans la population, dans tous les villages, et ça se passe en général très agréablement, à la bonne franquette. Chacun peut venir soumettre ses problèmes, et souvent, quand on utilise l'informatique et qu'on n'est pas expert en la matière, on se sent bien seul, bien malheureux à l'occasion du moindre problème. Et c'est un grand soulagement que de trouver des équipes qui vous épaulent, vous aident et dans la bonne humeur et vous permettent de redresser la situation quand vous avez un petit pépin. Voilà.
Votre ordinateur, vous, en tant qu'utilisateur, vous êtes Windows, Linux, les deux, je ne sais pas.
Moi, personnellement, je suis mentalement Linux à fond la caisse. Anti-Windows, j'aime pas qu'on me force la main, j'aime pas qu'on me contraigne. Et Windows contraint. Donc le côté commercial m'exaspère beaucoup. Donc je suis Linux à fond, c'est sûr.
Je suis venu surtout pour rencontrer des personnes parce que j'avais pas réellement de problème, mais pour chercher de l'expérience, notamment avec des personnes qui en ont plus que moi.
Eh bien, comme nous sommes en train de monter une association Gare Linux dans le Gard, je venais d'abord donner un coup de main à nos amis de Montpellier et puis voir aussi comment ce genre d'événement peut se dérouler afin d'en prendre de la graine et de pouvoir aider à en monter dans le Gard. Voilà.
Voilà des avis bien recueillis ce samedi 21 mai. C'était à Téran lors de cette seconde install party. Avant de retrouver l'agenda du libre, eh bien, encore un petit peu de musique, toujours avec l'artiste solo Nam qui est de Montpellier et qui nous propose à présent, toujours sur la même licence Creative Commons by NCSA 2.0, Nina's Dance. Il s'appelle Nam, il est de Montpellier et bah, ma foi, des grooves diablement efficaces. Si vous voulez en écouter plus, eh bien, ce sera sur Elle est libre, ma musique.
Et oui, ce sera l'artiste de la semaine sur Elle est libre, ma musique, plus de morceaux. Son dernier album sera à l'honneur pendant cette émission.
À présent, pour terminer cette 112e divergence numérique, agendadulibre.org pour les rendez-vous dans l'Hexagone. Avec, bien, si vous êtes à Paris ou à Poitiers, bien, il y aura les jeudis Parinux ou les jeudis du libre de la PP3L. Puis Rennes pour le 3 avec la permanence autour du libre Gulliver. Ce week-end, Charleville-Mézières, Cotonou, Paris, Brignoles ou Paris accueilleront diverses rencontres, que ce soit du Barcamp le premier samedi du libre à Paris et puis les rencontres Fedora 15 qui se tiendront tout le week-end. Puis pour la semaine à venir, Capelle en Pével, je ne sais pas où c'est, pour des mardis Linux, Dijon le 8 pour une boutte Poitou, Soirée du Libre. Et puis Toulouse, le 8 aussi, de rencontres logiciels libres et présentation des nouveautés d'OpenStreetMap, le projet de cartographie libre. On se déplace ensuite le 9 dans les montagnes.
À Chambéry, pour le premier jeudi d'Alpinux, ou à Paris, conférence logiciels libres et ESS ou Arène pour un apéro du libre, tout simplement. N'oublions pas aussi le 10 juin, donc vendredi 10 juin, au Kawenga à Montpellier, se tiendra le point libre, donc au 21 boulevard Louis Blanc à Montpellier, tramway Corum ou Louis Blanc, tout simplement. De 16h à 17h, Patrick Collinet pour l'animation d'un atelier d'électronique, ça sent le Arduino. Et puis de 17h à 18h, animation de l'atelier point libre par les membres de Montpellier Libre, accompagnement des utilisateurs au système d'exploitation libre et logiciel libre. Alors à 18h jusqu'à 19h, Pierre Jocelyn André qui nous présentera donc la nouvelle carte audio analogique Linux Audio. Linux Audio est une carte audio analogique contenant dans sa forme originale 8 pistes de sortie. Sa principale particularité est de pouvoir lire le format audio DAW, un tout nouveau format, un format audio qui est construit sur une modélisation des sons ou des musiques et ne donne en fait que 3 octets par demi-onde à ces techniques. Donc Pierre Jocelyn André nous présentera cela, Linux Audio, en recevant donc le format DAW, envoie directement une tension sur une chaîne d'ampli montée en comparateur, dérivateur et amplificateur de manière à retrouver l'excellence du son analogique. Tout ça, c'est le vendredi donc 10 juin au Kawenga à partir de 14h.
Voilà, donc ça sera un rendez-vous à ne pas rater aussi pour tous les audiophiles. Et un petit peu plus loin dans le temps et dans l'espace, puisqu'on Divergence Numérique sera rediffusée jusqu'à peu près jusqu'au 9. 9 où à Toulouse se tiendra un séminaire Plon et Drupal. Là, c'est plutôt du web design, si je ne m'abuse. Pas mal de rendez-vous. Une réunion du Club Linux le 11 à Wittenheim. L'atelier libre le 14 à Brignoles. Un atelier de bidouille informatique libre le 15 à Biarritz. Tandis qu'à Dunkerque se tiendra un stage LaTeX. Et puis si on pousse jusqu'au 16, ce sera les jeudis bidouilles à Lyon, dépannage logiciel libre, les third jeudis de Parinux à Paris ou encore une install party de l'Ubuntu 11.04 à Villiers-sur-Orge. Que se passe-t-il en Belgique par les temps qui courent? Eh bien c'est assez, on va dire, c'est assez faible l'activité aux alentours de la Belgique, puisque sur agendadulibre.be, on a un magnifique calendrier qui est vide jusqu'à la fin de Videra. On va tout de suite donc aller voir ce qui se passe du côté du Québec sur agendadulibre.qc.ca avec le 7 juin un Linux Meetup à Montréal et puis le 16 une rencontre du club Linux Atomique toujours à Montréal. Voilà les deux rendez-vous qu'on peut voir pour les semaines à venir. C'est ainsi, Pascal, que se termine cette divergence numérique, fort bien menée à la campagne.
Merci à vous donc de nous avoir écoutés sur les différentes radios libres, bien sûr, de vos environs, qu'elles soient montpelliéraines, viganaises, gardoises, québécoises. À la semaine prochaine et portez-vous libre. Terrorist states.